Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro Tsegeshi Ferao, cette semaine, Escale s'intéresse à la Terre, plus particulièrement au sol. En effet, 2015 est l'année internationale dédiée au sol et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO, nos sols sont en danger pour plusieurs raisons. Toujours selon la FAO, si l'on poursuit le rythme de dégradation actuel, nous serons incapables de parvenir à assurer les besoins des générations à venir. De passage à New York, dans nos studios, la journaliste, réalisatrice et écrivaine Marie-Monique Robin revient en détail sur les menaces qui pèsent sur les sols, notamment en évoquant l'agriculture intensive pratiquée par le secteur de l'agrobusiness.
Tu sais, ma terre, tu restes collée à ma peau.
Enchantée de vous avoir dans nos studios. Vous intéressez particulièrement au sujet de l'environnement et la terre, l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ces sujets en particulier ?
Bon, d'abord, je suis journaliste moi, depuis 30 ans hein, maintenant, donc je m'intéresse beaucoup aux droits humains, tout ce qui concerne les droits de l'homme, mais je préfère dire droits humains. Et évidemment, l'agriculture, c'est un droit humain fondamental. Celui qui contrôle les semences contrôle le monde et contrôle les peuples, donc c'est très important. Alors par ailleurs, d'un point de vue personnel, c'est un sujet que je connais bien parce que je suis moi-même née sur une ferme dans le Poitou-Charentes, avec des parents très impliqués dans cette réflexion sur l'agriculture et qui ont beaucoup accompagné ce qu'on appelle la révolution verte et qui en sont revenus parce que maintenant la ferme a été convertie en bio récemment.
Vous avez écrit une série d'ouvrages qui ont été traduits pour certains dans 22 langues. Ces ouvrages, en fait, parlent notamment de l'agribusiness. Que vous inspirent ces compagnies qui investissent dans l'agriculture ?
L'ouvrage le plus connu, c'est aussi un film d'ailleurs, hein, ça s'appelle Le Monde selon Monsanto. C'est une enquête que j'ai conduite pendant 2 ans et qui révélait comment cette compagnie américaine qui est née et qui est toujours installée dans le Missouri, à Saint-Louis, a manipulé les données scientifiques qu'elle avait, a caché la toxicité de ses produits et a imposé des produits hautement toxiques depuis le début de sa création. Donc ça, c'était le cœur de cette enquête. Et évidemment, dans cette enquête, je parlais des fameux OGM, les organismes génétiquement modifiés, dont Monsanto a toujours prétendu que c'était la solution pour nourrir le monde. Alors moi, je pense que c'est tout le contraire. Alors après Le Monde selon Monsanto, j'ai fait d'autres films, d'autres livres, dont une enquête qui s'appelle Les Moissons du Futur, où j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec Olivier de Scutter, qui était le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui avait fait un rapport sur l'agroécologie comme le moyen de nourrir le monde, donc le contraire du modèle que propose Monsanto. Hein, parce que Monsanto, c'est un archétype, hein, évidemment, c'est pas la seule compagnie qui fait ça, mais enfin, c'est quand même aujourd'hui la première compagnie semencière du monde, c'est pas rien. Hein. Elle a presque un monopole, en tout cas aux États-Unis, c'est un monopole, tellement vrai d'ailleurs qu'il y a des class action actuellement en cours parce qu'on soupçonne que Monsanto viole la loi antitrust américaine.
Dans des poursuites judiciaires.
Voilà, poursuites judiciaires. Donc voilà. Et donc, Olivier de Scutter, lui, dans son rapport, disait si on veut nourrir le monde, il faut changer de modèle agricole absolument et rapidement. D'ailleurs, il y avait aussi un rapport qui avait été parrainé par la Banque mondiale et qui était sorti en 2008, qui s'appelait L'agriculture à la croisée des chemins. Il disait exactement la même chose.
Pourquoi est-ce que le modèle actuel ne fonctionne pas ?
Alors d'abord, il ne fonctionne pas parce qu'on ne nourrit pas le monde avec ce modèle. Vous savez, très souvent on entend, si on interdit les pesticides et les engrais chimiques, on ne pourra pas nourrir le monde. J'ai dit oui, mais vous oubliez de dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides et les engrais chimiques. Eh bien, vous savez qu'il y a près d'un milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim, hein, qui sont en état de malnutrition permanente ou même carrément de famine. Donc voilà, et 80% de ceux qui ne mangent pas leur faim sont des petits paysans. Donc il y a un vrai problème. C'est un échec patent, ce modèle. Alors qu'on a investi des millions et des millions de dollars hein, pour promouvoir les semences améliorées, comme on dit, avec entre guillemets. Hein.
J'aime pas les OGM, moi, tout ce qui va avec, qui pollue la planète, pour que des laboratoires s'en mettent dans les tiroirs, en nous prenant pour des pigeons.
Est-ce que vous pouvez expliquer donc, brièvement pourquoi ces semences justement modifiées ne fonctionnent pas de façon simple ?
Bah, tout simplement parce que ce modèle agro-industriel est fondé sur un modèle où les paysans, pour acquérir ce paquet technologique, on appelle ça comme ça, hein, donc les semences qui vont avec les engrais et les pesticides, etc., bah, ça coûte très cher. Et donc déjà, pour pouvoir avoir accès à ce paquet, eh bien, il faut s'endetter. Donc on a observé depuis que ce modèle a été développé sur la planète que beaucoup de petits paysans qui assuraient véritablement la nourriture de leur pays, parce que c'est eux qui nourrissaient leurs concitoyens, bah, ont dû partir. Hein. Donc, ça, c'était... Et donc du coup, une concentration des terres un peu partout, des fermes de plus en plus grandes, etc. Et un désastre à la fois social, et économique et écologique, parce que ça ne marche pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'on le voit très bien. Ça conduit à des monocultures qui sont donc très très centré sur les grandes cultures, maïs, blé, etc., qui sont surtout des plantes faites pour nourrir les animaux, pas pour nourrir les hommes. Et donc on a partout vu se développer dans le Midwest américain ou en France dans la Beauce, ou partout d'énormes exploitations qui font du maïs ou du blé, mais ça sert à nourrir les animaux, des élevages intensifs, et ça ne nourrit pas les hommes. Alors ça ne marche pas non plus parce qu'on voit les limites du modèle maintenant. Les limites, elles sont à la fois, l'eau est de plus en plus polluée. Il faut savoir que dans ce modèle, eh bien, on utilise beaucoup d'eau d'irrigation, et actuellement on estime, enfin c'est les chiffres des Nations Unies, que 70% de l'eau consommée sur la planète, c'est pour l'agriculture. C'est absolument énorme. Alors, quand on sait qu'avec le réchauffement climatique, la problématique de l'eau va être de plus en plus importante, hein, évidemment, c'est un non-sens. C'est aussi un modèle qui a montré ses limites parce que l'eau est en train de s'épuiser, mais au plus, elle est très polluée. Et c'est à cause de tous ces résidus de produits chimiques. Je ne parle même pas de la qualité des sols. D'après les Nations Unies, 17% des sols où on a pratiqué l'agriculture industrielle sont morts. Et une grande quantité des sols, par ailleurs, sont en bord de l'épuisement. Donc il faut mettre de plus en plus d'engrais, puis voilà. Donc on a tout tué avec ce modèle. Et enfin, c'est un modèle très fragile parce qu'il dépend du pétrole. Donc si vous observez encore une fois les chiffres fournis par les Nations Unies, notamment Olivier de Schutter, on estime que 14% des gaz à effet de serre actuels sont dus à ce modèle agro-industriel qui est fondé sur des produits chimiques qui sont faits avec du gaz et du pétrole, qui est fondé aussi sur un transport complètement délirant des aliments qui font le tour de la planète, et ça consomme beaucoup d'énergie fossile particulièrement. Et si on ajoute à ça les 19% qui sont dus à l'élevage industriel, qui aussi produit beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du méthane.
Donc de la pollution.
Et puis du réchauffement climatique surtout, c'est de ça que je parle. Et si on ajoute à ça enfin 19% dus à la déforestation et au changement d'utilisation des sols, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, on déforeste pour planter des agrocarburants, des biocarburants par exemple, ou des grandes monocultures, etc. Eh bien, nous arrivons à un total absolument inouï. Près de 50% des gaz à effet de serre actuels sont provoqués par ce modèle agro-industriel avec toutes ces facettes, vous voyez. Donc, c'est plus possible de continuer. C'est ce que disent les rapports des Nations Unies. Plusieurs rapports que moi-même j'ai cités dans mon livre ou qui m'a conduite à voyager partout dans la planète pour faire mon film. Donc, on peut faire autrement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire autrement, mais véritablement faire autrement. On peut pratiquer une agriculture biologique de proximité où on respecte véritablement les ressources de l'environnement avec un modèle agricole qui consomme peu d'eau, qui ne consomme pas d'énergie fossile, vous voyez. Et on peut avoir de très bons rendements, c'est ce qu'on voyait dans mon enquête les moissons du futur, à condition qu'il y ait un partenariat entre les paysans et les scientifiques.
Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis
devenue. Est-ce que ce partenariat existe ou bien est-ce qu'au contraire, comme dans un de vos livres, vous mentionnez qu'en fait, la plupart des scientifiques dorénavant sont de moins en moins indépendants au niveau de la recherche, dépendent de plus en plus de compagnies qui financent leurs rapports et qui donc modifient dans certains cas les résultats?
Oui, bien sûr, c'est un vrai problème. Hein. Le fait que la science soit tournée vers les brevets de plus en plus parce que les laboratoires, des universités sont financées par de grandes compagnies, comme Monsanto d'ailleurs. Mais j'ai quand même trouvé, pour faire mon enquête, les moissons du futur, des scientifiques dépendants de grands organismes, comme par exemple le Centre d'agroforesterie qui est basé au Kenya, à Nairobi, qui fait un travail extraordinaire avec de nombreux scientifiques, hein, qui montrent comment on peut pratiquer l'agriculture avec la plantation d'arbres, hein, c'est-à-dire vraiment on utilise les arbres comme ressource et ça permet évidemment de mieux utiliser l'eau, enfin, et de produire des engrais naturels, etc. Et on peut faire du maïs sous les arbres, enfin, il y a heureusement des organismes comme ça où l'organisme de recherche sur les insectes est aussi basé à Nairobi, un grand centre international qui fait vraiment qui mène des études pour vraiment trouver les meilleures solutions agroécologiques, hein, aux problèmes des agriculteurs en Afrique ou partout dans le monde.
Mais ces scientifiques-là, sont-ils écoutés par leurs gouvernements respectifs?
Je pense qu'il y a une prise de conscience tout de même aujourd'hui, un peu partout. Vous savez, en Europe d'où je viens, un aliment parcourt en moyenne 4000 km entre le champ du producteur et l'assiette du consommateur. C'est absolument un non-sens. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de ressources, alors que le pétrole est en train de s'épuiser, vous voyez, et que, encore une fois, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Donc, il faut relocaliser la production des aliments au maximum, la consommation aussi, parce qu'évidemment, ce modèle, ce nouveau modèle agroécologique fait que, évidemment, on privilégie les circuits courts. Hein, et ça, c'est un mouvement planétaire, y compris ici à New York, où nous sommes, ou à Paris, où j'habite. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les AMAP, ou les CSA en anglais, vous savez, c'est l'association qui relie des consommateurs avec un producteur et qui fournissent des paniers toutes les semaines. Vous voyez. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se créer partout pour sortir de cet agro-business qui nous mène dans le mur véritablement et qui n'a pas résolu la question de la faim, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, qui fait même qu'on a une alimentation de moins bonne qualité, hein, parce que tous ces engrais chimiques, ces produits chimiques et tout ce qui va avec, l'emballage, les plastiques. Moi j'ai fait aussi un autre film, un autre livre qui s'appelle Notre poison quotidien. Le livre vient de sortir aux États-Unis, qui est un best-seller aussi, qui montre comment tous ces produits chimiques qui rentrent en contact avec la chaîne alimentaire sont responsables d'une grande partie des maladies qui sont actuellement en pleine expansion, comme les cancers du sein, les cancers de la prostate, l'obésité, le diabète, etc. Donc c'est sérieux tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui ont compris ça.
Est-ce que justement, vous avez remarqué que depuis votre implication réelle, c'est-à-dire la publication de livres, des films, des documentaires, est-ce que vous avez senti que la population, que ce soit en France ou ailleurs, est de plus en plus consciente de l'environnement autour d'elle? Est-ce qu'elle demande des changements et est-ce que ces changements peuvent être obtenus?
Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients, oui, effectivement. L'agriculture biologique, elle va en poupe partout. Et ça se traduit aussi par, à New York, des gens qui vont faire de l'agriculture urbaine sur les toits des villes. Moi, j'ai fait un dernier film qui s'appelle Sacrée Croissance, qui est passé aux Nations Unies récemment. C'est aussi un livre où je suis allé, par exemple, à Toronto. On voit comment un ancien trader de la Bourse de New York plaque tout pour créer une coopérative de production d'aliments biologiques en circuit court dans la banlieue de Toronto. Et ça, c'est vraiment un mouvement très important qu'on retrouve dans plein de pays développés. Des bacs plus 5, 10 qui disent, l'argent ne se mange pas et on a envie d'un autre mode de vie aussi, hein, parce que ça s'accompagne évidemment d'une remise en cause de tout ce modèle de développement qui fait qu'on est en train de détruire les ressources de la planète à une très grande vitesse. Hein. La planète, non seulement ses ressources s'épuisent, les énergies fossiles, les minerais aussi, hein, mais aussi sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons. Donc le plus grand déchet, c'est évidemment les gaz à effet de serre. Eh bien, elle a atteint un point de saturation absolument évident. Et il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients, parce qu'ils se rendent compte que, eh bien, quand on a un grand cyclone à New York, comme on l'a eu récemment, qui est évidemment une conséquence du réchauffement climatique, eh bien, il va falloir changer de cap si on veut éviter des catastrophes de plus en plus nombreuses. Hein. En France, c'est pareil, nous avons des inondations de plus en plus courantes, très importantes. À Montpellier, par exemple, c'était très important, mais aussi en Bretagne. Enfin, tout ça, c'est des signes que la machine du changement climatique est en marche. Eh bien, ça veut dire changer de mode de vie, et notamment relocaliser la production alimentaire, évidemment, pour nous rendre plus résilient aussi, hein, parce que si on dépend de tomates qui viennent de Floride quand on habite à New York, c'est quand même très grande vulnérabilité.
Mange, mange, la nourriture qui te démange, du poison dans les veines, modifié dans les gènes. Range, range, le produit qui te dérange, si la graine provoque la peine, qu'est-ce qu'on récolte sur la sème?
Depuis que vous avez publié vos ouvrages, depuis que vous avez fait vos documentaires, est-ce que le gouvernement français, par exemple, le ministère de l'écologie et de l'environnement, vous a consulté?
J'ai été auditionné plusieurs fois par des commissions parlementaires. Bon, le monde seulement Monsanto a eu beaucoup d'impact en France. S'il n'y a pas d'OGM dans les champs, je le sais parce que ça a provoqué un débat absolument incroyable à l'Assemblée nationale. C'est en grande partie grâce à ce film et à ce livre. Et c'est vrai pour le reste de l'Europe d'ailleurs, hein. En Allemagne aussi. Pour ce qui est de notre poison quotidien, le bisphénol A, qui est une hormone de synthèse qu'on retrouvait dans les biberons en plastique, etc., il y a eu un grand débat là-dessus. Le film et le livre ont eu un impact évident. La substance est interdite maintenant dans tous les contenants alimentaires. Pour ce qui est de l'agroécologie, moi j'ai participé à un colloque au Sénat. Enfin, ça progresse. Alors évidemment, c'est lent parce que les lobbying sont très puissants. C'est vraiment le plus grand frein vient de là en fait. Hein. La puissance des lobbying est énorme. Je l'ai raconté ça en détail dans Le Monde selon Monsanto. Hein. Mais on sent quand même une prise de conscience, alors, y compris du côté des politiques. Le problème, c'est la question, c'est de savoir est-ce que ça va être assez rapide pour faire face à ces défis qui nous attendent, qui sont quand même énormes. J'insiste, hein, le réchauffement climatique, c'est sérieux. Il faut absolument qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on change de mode de vie, parce que ça ne suffit pas de changer les ampoules hein, dans la salle de bain. Hein. Ça ne suffira pas. Hein. Donc j'essaie de faire tout ce que je peux pour que cette prise de conscience s'accélère et qu'on prenne les bonnes mesures aussi. Mais les lobbying sont très forts.
Ce matin, tu restes collé à ma peau.
Et c'est sur ces paroles de Marie-Monique Robin que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine au sol. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.